Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je viens ici sur Nantes. Effectivement, comme l'a dit Pasteur Maréchal, j'ai été surpris d'entendre sa voix au téléphone quand je lui ai communiqué les titres de mes messages. Je lui ai dit, je pensais que vous étiez parti en Afrique et que je devais venir pour vous remplacer. Il dit oui, effectivement, normalement c'est ce qui était prévu. Mais mon cardiologue m'a déconseillé de faire ce voyage et m'a demandé de me reposer. Alors je lui ai dit, donc c'est peut-être pas nécessaire que je vienne, alors, si vous êtes là. Il dit, si, parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me repose. Donc, bon, voilà, je suis là. Je sais pas s'il se repose beaucoup. C'est pas évident de se reposer. On a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur, mais... Il faut aussi être sage et parfois lever le pied quand c'est nécessaire. Alors vous avez les salutations des frères et sœurs de l'Église de l'Orient qui sont aussi comme vous réunis en ce moment pour adorer, louer leur Dieu. Ce sont des frères qui m'accompagnent et qui m'aident donc dans l'œuvre de Dieu, qui me remplacent ce matin. Ma compagne devait venir avec moi, mais elle s'excuse près de vous, car elle a une sciatique ou un lumbago, je ne sais pas trop, enfin elle est bloquée au niveau du dos, et donc elle ne pouvait pas venir, elle est restée couchée. Que le Seigneur la bénisse. C'est des choses qui arrivent, nous sommes tributaires des aléas de l'existence, de notre corps en particulier, qui ne va pas en... rajeunissant, mais en vieillissant. N'est-ce pas? C'est comme cela. Mais le Seigneur fait une promesse et dit que si notre être extérieur se détruit ou se détériore, normalement l'être intérieur doit se renouveler par sa grâce. En nous approchant de lui, eh bien, le Seigneur est capable, par l'action de son esprit, eh bien, de renouveler nos forces. C'est la promesse qu'il a faite. C'est ce que je dis souvent aux anciens de l'Église. Notre doyenne a 95 ans passés et est toujours présent au culte le matin, le dimanche après-midi, la réunion du jeudi après-midi. Et je dis souvent que le Seigneur a fait la promesse de nous porter jusque dans notre blanche vieillesse. Alors merci pour les anciens. Ils sont pour nous des modèles, des exemples de persévérance. Que le Seigneur les bénisse, mais aussi merci pour les jeunes, car ils apportent leur dynamisme, leur enthousiasme. Enfin, nous formons tous la famille de Dieu, les uns et les autres. Et comme on l'a entendu dans les prières, et par la bouche de son serviteur tout à l'heure, il est notre Père Céleste et nous sommes ses enfants. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite alors que nous étions loin de lui, que nous ne le connaissions pas. Eh bien, le Seigneur s'est placé sur notre chemin. Il nous a interpellés et nous avons entendu, nous n'avons pas fermé notre cœur, mais nous n'avons pas non plus résisté. Je parlais la semaine dernière, le jeudi après-midi, nous suivons une lecture suivie des Actes des Apôtres et nous étions arrivés à la conversion de Saul de Tarse que vous connaissez. Et en lisant et en relisant donc son témoignage, je me disais, mais il n'a pas eu le choix, il a été obligé de se convertir. Il a été terrassé par Dieu alors qu'il allait vers Damas pour arrêter les chrétiens. Alors, c'était ma réflexion. Et puis en méditant, en recherchant un peu plus loin, il se trouve devant le roi Agrippa et il raconte à nouveau son témoignage. Et il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc il a eu le choix. Il aurait pu résister. Il aurait pu fermer son cœur. Mais comme il le dit et comme il l'écrit à Timothée, il agissait par ignorance, pensant rendre un culte à Dieu. Et Dieu a vu la droiture de son cœur. Il est écrit dans le psaume 7 que Dieu se révèle et veut sauver ceux qui ont le cœur droit. Et c'était le cas de Saul de Tarse. Et après avoir été éclairé, eh bien, Il a rendu témoignage avec force et vigueur que Jésus était mort, mais qu'il était ressuscité, qu'il était vivant. Donc, en ce qui nous concerne, eh bien, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il s'est placé sur notre chemin et de ce que nous n'avons pas résisté à cette douce pression de notre Dieu, de notre Père Céleste, sachant que nous sommes ses enfants parce qu'il est notre Créateur, mais il est devenu doublement en la personne de Jésus, parce qu'en Jésus, nous avons vu notre Sauveur qui a payé le prix de notre rachat et du salut de notre âme. Ce matin, donc, c'est ce que vous avez pu voir sur le petit programme que vous faites régulièrement. Le titre de mon message, c'est que la victoire, parce que tout au long de notre existence, eh bien, nous sommes confrontés à des luttes, des combats, et ce que le Seigneur désire, c'est que nous remportions la victoire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la victoire appartient à notre Dieu, à notre Dieu. C'est quelqu'un qui le dit dans l'Ancien Testament. Pour être plus précis, dans le premier livre de Samuel, je ne sais pas si vous voyez qui je veux parler, mais il s'agit de David. David. Quand David dit cela, il était jeune, adolescent, et il a eu un combat terrible à mener. Mais il l'a vaincu. Nous allons lire, non pas tout le récit, mais une partie. Donc dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Je lis donc, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à l'Éternel. Quand nous réfléchissons à cette situation, humainement parlant, c'était de la folie et c'était insensé d'aller faire face à ce géant. D'ailleurs, quand David est arrivé dans le camp, il a été envoyé par son père pour apporter des vivres à ses frères qui déjà étaient là, faisant partie de l'armée du roi Saül. Il a entendu donc le défi qui était lancé par ce géant et il était surpris que personne n'aille le combattre. Alors il s'est proposé d'y aller. On en a fait part au roi Saül et le roi Saül a demandé qu'il vienne. Et quand il se trouve devant le roi Saül, c'est un adolescent, c'est un jeune homme. Et Saül voit tout de suite que c'est de la folie. Et il lui dit d'ailleurs, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tout de suite, le roi a vu que c'était de la folie d'aller devant cet homme, ce géant. Mais David plaçait sa confiance en l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël. Il avait la foi, il avait la foi. Et l'enthousiasme aussi de la jeunesse, mais plus précisément, il était sûr que l'Éternel serait avec lui. Il est écrit, et cela est valable pour nous, nous ne devons pas l'oublier, nous qui sommes ses enfants, lui qui est notre Père Céleste, il est écrit que Dieu honore ceux qui croient, ceux qui placent en lui leur confiance. Dieu les honore. L'aveugle de naissance, guéri par Jésus, nous connaissons ce récit dans les évangiles, va dire aux responsables religieux, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dans le psaume 34, verset 16, il est écrit, ne cherchez pas, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et encore, dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Voilà des promesses du Seigneur. Pour ceux qui ont cru, et nous sommes de ceux qui avons cru, nous sommes ses enfants et nous voulons l'honorer. Alors le Seigneur a son regard sur chacun de nous et il voit nos luttes et nos combats. Et nous devons l'avouer, nous sommes parfois confrontés à des géants. C'est-à-dire à des situations difficiles, à des problèmes qui nous paraissent insolubles. Et quand nous réfléchissons donc face à ces situations et que nous considérons les choses, nous voyons que nos moyens sont tellement dérisoires, Qu'est-ce que je vais faire ? Que faire ? Comment faire pour m'en sortir ? Vers qui se tourner ? Bien sûr, nous connaissons le Seigneur. Et justement, c'est ce que nous allons voir. Trois pensées que nous verrons ensemble par rapport à ce combat que David a mené contre ce géant. Et nous, nous avons des combats à mener aussi dans notre existence qui prennent différentes formes en fonction des circonstances. Premièrement, si nous voyons le comportement de David face à ce géant, quand il s'est trouvé, comme je le disais, devant Saül, Saül, donc, comme nous l'avons vu, lui a dit « Mais c'est de la folie, t'es un enfant, lui c'est un homme de guerre. » Mais il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas démonté, David, face à cette parole du roi Saül. Et il lui a dit, au verset 34, de ce même chapitre 17, si vous avez gardé votre Bible ouverte, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Premièrement, ce que nous pouvons dire ici par rapport à cette réponse de David, c'est que David n'a pas oublié la main de Dieu quand il s'est trouvé dans la difficulté, alors qu'il était berger. Et il rappelle à Saül que Dieu l'a délivré, et pourtant il se trouvait face à un grand danger, l'ours ou le lion. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. En ce qui nous concerne, nous qui avons quelques années de vie chrétienne, ou même qui le connaissons depuis peu, il n'en demeure pas moins que nous sommes venus au Seigneur avec des épreuves, des difficultés, une vie cassée pour certains, et Le Seigneur, d'une part, s'est révélé à nous, mais nous lui avons fait part de nos besoins dans un cri de détresse, et le Seigneur a entendu, et le Seigneur a répondu, et le Seigneur a agi. Pour certains, c'est peut-être des expériences qui sont récentes. Pour d'autres, eh bien, ce sont des expériences qu'ils ont pu faire il y a des années. Sans vivre dans le passé, la première pensée que nous avons ici, c'est que nous ne devons pas oublier que le Seigneur est fidèle et qu'il agira parce qu'il a agi dans le passé. C'est ce que David dit au roi Saül. Le Seigneur m'a délivré. Il a déjà agi. Je sais qu'il est puissant. Je peux compter sur lui. Il le fera encore. Nous connaissons cette parole du prophète Samuel après que le peuple d'Israël avait livré une bataille contre les Philistins. Il a dressé ce monument, une pierre, et il l'a appelé Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est-à-dire qu'il va le faire encore. Alors si vous vous trouvez devant des épreuves, des difficultés, rappelez-vous les expériences vécues et cela va vous fortifier. Cela va vous fortifier. Rappelez-vous que dans telle et telle situation, eh bien le Seigneur, vous avez crié au Seigneur et le Seigneur a entendu et le Seigneur vous a délivré. C'est peut-être une autre situation, mais rien n'est impossible à notre Dieu. Il l'a fait et il le fera encore. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 3, l'Éternel dit à son peuple: écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je le ferai, c'est ce que je rappelais tout à l'heure concernant les anciens, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Merci Seigneur, je l'ai fait, mais je vais le faire encore. Le Seigneur est fidèle, il nous comprend au travers Jésus, parce qu'il a vécu sur la terre, c'est écrit. Et il veut nous secourir, nous soutenir et même nous porter. Dieu a agi, il agira encore. Amen. C'est la première pensée. Deuxième pensée, par rapport à ce combat que David a livré face à ce géant, Goliath, le Philistin, il a agi en conséquence en s'appuyant sur son Dieu sans douter et sans perdre de vue l'ennemi qui était devant lui. Alors, nous allons voir, justement, par rapport à son attitude, au verset 38 de ce même chapitre 17. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: « Je ne puis pas marcher avec cette armure, j'y ne suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David connaissait son ennemi. Il s'est avancé vers le Philistin. Notre ennemi, nous le connaissons aussi. Le Seigneur nous l'a dévoilé au travers de sa parole, lui qui est la véritable lumière. Notre ennemi, c'est le diable. Nous devons le comprendre, le réaliser. L'apôtre Paul écrit dans les Éphésiens, chapitre 6, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les personnes, contre les individus, même si nous avons des individus qui peuvent être devant nous et qui s'opposent à nous, voire qui nous persécutent. Nous ne devons pas nous tromper de cible. David s'est déchargé de l'armure de Saül parce qu'il ne pouvait pas la porter. Il a fait ce qu'il devait faire, des choses simples. Il est allé chercher des pierres, il les a mis dans sa gibecière, et ensuite, avec sa fronde, il est allé faire face aux Philistins, aux géants. Quand notre ennemi est dévoilé, alors la victoire est déjà remportée. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que comme l'apôtre Paul le dit, il est rusé, malin, et il se cache. Et on n'est pas toujours conscient qu'il est là. Bien sûr, nous ne le voyons pas. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et notre ennemi se cache derrière nos épreuves, nos difficultés, pour nous décourager, pour nous faire croire que Dieu nous a oubliés, qu'il nous abandonne. Quand nous lisons notre Bible, nous voyons que même des hommes de Dieu ont eu ce sentiment devant certaines difficultés, devant certaines épreuves. Il se cache aussi, notre ennemi, il se cache aussi derrière les paroles, les réflexions que nous pouvons entendre à notre rencontre. Pour nous inciter à la critique, parce que ces paroles, nous les avons entendues d'une personne. Et dans un premier temps, bien souvent, nous en voulons à cette personne. Et dans cette attitude et ce comportement, cela nourrit de la rancœur, de l'amertume. Et tant que nous sommes dans cette vision que nous voyons que la personne qui est devant nous, alors notre ennemi, eh bien, continue et sape notre courage et produit en nous de mauvaises choses. Parce qu'il veut nous diviser, principalement diviser le peuple de Dieu, pour le détruire. C'est le but qu'il poursuit. Et par la même occasion, nous détruire aussi, personnellement. Et pour cela, il se sert de notre nature humaine, des réactions de la nature humaine, pour empêcher Dieu d'agir et de remporter la victoire. C'est exactement ce qui s'est passé avec David. Quand on réfléchit, quand on lit bien dans ce chapitre 17 comment les choses se sont passées. Allons au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le frère aîné, ici, n'est pas content de voir David qui est là. Et il l'interpelle assez violemment. Mais nous voyons que David se détourna de lui, l'a laissé. Lui, David, son objectif, c'était de combattre ce géant. Et il ne s'est pas trompé de combat, ni d'ennemi. Ce n'était pas son frère, son ennemi. Ce ne sont pas nos frères et sœurs en Christ qui sont nos ennemis. Même si parfois, nous pouvons entendre certaines paroles qui ne nous plaisent pas toujours. Ce ne sont pas ceux qui nous entourent qui sont nos ennemis, même si parfois nous subissons des injustices. Mais derrière tout ce que nous pouvons rencontrer comme opposition par rapport à notre marche avec le Seigneur, notre ennemi, c'est le diable. C'est lui qui veut nous atteindre. Il est rusé, il est malin et il prend des détours. Et tant que nous n'avons pas dévisagé, eh bien, il a le dessus sur nous. Lui, il est l'ennemi de nos âmes. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Il cherche notre perte. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. En Jésus-Christ, ou en Dieu plus précisément par Jésus-Christ. L'objectif à atteindre, c'est la victoire et non la défaite. Si nous voulons être victorieux, nous ne devons pas nous tromper de cible. Nous devons réaliser que derrière toutes nos épreuves, nos difficultés, voire l'adversité, voire les paroles que nous pouvons entendre, les vexations, les injustices, il y a quelqu'un qui veut nous arrêter dans notre marche et nous abattre. Mais si nous avons nos regards fixés sur Dieu et si nous le dévoilons, alors, se voyant dévoilé, il va lâcher prise. Et là, nous avons déjà remporté la victoire. Les réactions de notre nature humaine peuvent empêcher Dieu d'agir et de remporter la victoire. Parce que c'est une brèche à notre ennemi, c'est une ouverture. Et tant qu'il y a cette ouverture, eh bien, il s'en saisit et il nous manipule. David n'a pas prêté attention à son frère aîné, à ses réflexions, il s'est détourné de lui. Il ne voulait pas perdre de vue ce pourquoi il était venu, enfin, au départ ce n'était pas pour cela, mais il a obéi donc à son père qu'il a envoyé pour donner des vivres à ses frères. Et quand il a trouvé donc l'armée d'Israël avec le roi Saül qui était dans la crainte et dans la peur, et quand il a vu donc ce géant apparaître, lancer ce défi, eh bien l'Esprit de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Mais il y en avait un qui voulait tout faire pour l'empêcher de détruire, d'abattre ce géant. Mais David ne s'est pas laissé détourner de cet objectif. Et la troisième pensée, par rapport à l'attitude de David, c'est qu'il a déclaré la victoire dans le nom de l'Éternel. Il a déclaré la victoire dans le nom de l'Éternel. Nous avons lu au verset 45, il dit « Tu marches » quand il se trouve face à ce géant. Il lui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. » Quelle merveilleuse déclaration de victoire, alors que rien ne s'était encore passé. Le géant était toujours debout. Mais David est convaincu que l'Éternel est avec lui. Si nous sommes conscients que notre combat est un combat spirituel, et si nous avons cette foi que Jésus, notre Sauveur, a terrassé notre ennemi, alors nous remporterons la victoire, parce que c'est lui qui va nous communiquer sa force. Il faut d'abord que cette victoire soit remportée dans notre cœur. contre nous-mêmes. Si cette victoire est remportée dans notre cœur contre nous-mêmes, si notre ennemi est dévoilé, nous remporterons la victoire. Nous avancerons vainqueurs. Mais si nous avançons déjà avec la défaite, eh bien effectivement, nous aurons perdu d'avance. Je le dis souvent aux chrétiens de l'Église de l'Orient, nous ne suivons pas le vaincu, nous suivons le vainqueur, c'est Jésus. Nous suivons le vainqueur. Pour autant, nous avons des luttes, nous avons des combats, Jésus en a eu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Pour résumer, ce que nous venons de voir, c'est simple, mais c'est efficace. Quand vous êtes devant l'épreuve, la difficulté, une circonstance difficile, rappelez-vous que dans le passé, le Seigneur ne vous a jamais abandonné, mais qu'il vous a secouru. Il est bon de se rappeler les bénédictions de Dieu. Et cela fortifie notre foi. Il faut également agir en conséquence. Ne pas se laisser décourager par ce que l'on entend, par ce que l'on voit, par ce qui est présent devant nous. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est aux manettes et qui veut nous déstabiliser. Quand il est dévoilé, la paix revient dans notre cœur, même si nous n'avons encore rien vu, même si l'ennemi n'est pas encore terrassé. Nous voulons affirmer, parce que nos regards sont fixés sur Jésus, qui a déjà remporté la victoire à la croix, il a dépouillé les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Et au nom de Jésus, nous remportons la victoire. David a fait face au géant Goliath au nom de l'Éternel. Tu marches devant moi avec l'épée et le javelot. Moi, je marche à ta rencontre au nom de l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour notre gloire. Le géant va être terrassé, mais David restera toujours dans l'humilité, à la différence de Saül qui va tomber dans l'orgueil et la jalousie. Quand il va entendre les femmes qui vont crier, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Si nous remportons la victoire, une grande victoire, que ce soit un témoignage pour notre Dieu et que toute la gloire lui en revienne. Que le Seigneur nous aide. L'apôtre Paul écrit, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Les victoires que nous remportons, eh bien, sont pour nous l'occasion de rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Et si le Seigneur nous a délivrés, il pourra aussi délivrer ceux qui sont dans l'épreuve. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Pas en nous-mêmes, pas en nos capacités. Ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par le javelot, ce n'est pas par nos conceptions humaines que nous pourrions échafauder. Tout s'écroule devant les géants qui sont en face de nous. Mais c'est par la force que Dieu va nous communiquer et cette action de Dieu se manifeste dans la mesure où nous plaçons notre confiance en lui, où nous gardons la foi. Nous gardons la foi. L'apôtre Paul a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et s'il y a quelqu'un qui a eu des épreuves et des difficultés, c'est bien l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Mais il a tenu. Non pas qu'il comptait sur ses propres forces, parce que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse ». Alors n'oublions pas, par rapport à ce combat que nous connaissons, nous aurons des combats. Tant que nous sommes sur la terre, nous aurons à combattre, à lutter. Le Seigneur nous a avertis, il nous avertit toujours, le Seigneur, parce qu'il nous aime. Rappelons-nous ce qu'il a fait, les délivrances qu'il nous a accordées, et ne nous décourageons pas. Ne nous trompons pas de cible, de combat. Mais sachons que derrière les circonstances difficiles, les épreuves, l'adversité, les réflexions, les paroles que nous pouvons entendre, notre ennemi cherche à nous déstabiliser, à nous abattre et à détruire l'œuvre de Dieu. Et même quand l'ennemi est toujours devant, même quand l'épreuve est toujours là et que nous n'avons rien vu, que nous gardions confiance et que nous puissions déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Et nos géants seront terrassés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce sont des choses simples, pratiques, mais tellement nécessaires pour notre marche, Seigneur Jésus. Tant que nous serons sur la terre, Seigneur, nous aurons à lutter, à combattre. Toi-même, Seigneur, tu as eu à lutter, à combattre. Mais tu as remporté la victoire, même sur la mort. Tu es sorti vainqueur. Notre ennemi a été terrassé. Et en toi, Seigneur, eh bien, nous serons plus que vainqueurs. Parce que tu es le Tout-Puissant. Que nous puissions rester près de toi, Seigneur. Que par l'action de ton Saint-Esprit et au moyen de ta parole, tu puisses nous encourager, nous fortifier, Seigneur. C'est ce que tu veux faire. Merci de nous garder les uns et les autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À cet après-midi.
La semaine qui précédait mon départ, puisque tout était prêt sur le pays, j'allais enseigner dans cette zone de la ville principale, et puis nous étions dans la jeûne et prière le mardi de la semaine qui précédait le départ avec l'équipe pastorale, et puis les anciens qui sont venus. Et lors de cette matinée, j'ai reçu un appel téléphonique par un pasteur jeune, et dont je ne connais pas particulièrement. Et elle m'a dit, j'ai reçu ça, c'est la première fois, j'espère que c'est la dernière fois. Mais voici, je vais vous lire les deux versets bibliques que j'ai reçus. Et je lui ai demandé si, puisque c'était une révélation, si c'était en rapport avec un voyage, puisque c'était clair, c'était un message de mort. Et le midi, j'ai demandé aux frères, avec les anciens, de prier pour la protection de Dieu, puisqu'il y avait un risque de mort sur ma personne. Et puis nous nous sommes séparés là, et j'avais pris rendez-vous depuis de longs mois, visite de routine chez le cardiologue annuellement. Et puis, suite à l'auscultation, il m'a dit ce qu'il y avait, chose qui n'aurait pas dû y avoir. Et je lui ai fait part du voyage. Il a donné un avis défavorable sur ce voyage. Mais la réponse, la décision revient toujours au patient quand même. Et je lui ai dit que j'acceptais de ne pas partir en voyage. Et puis, ayant certaines relations, j'ai donc téléphoné. Ils avaient eu, il y a quelque temps, un attentat dans la ville. Et j'ai appris qu'il y avait aussi, par ces différentes relations, une tentative de coup d'État qui venait d'avoir lieu. Donc, j'ai remercié Dieu de tout mon cœur. J'ai vraiment pris ça pour une grâce de Dieu, pour une bénédiction de Dieu, pour une protection de Dieu. Et je lui en suis profondément reconnaissant de ce qu'il a pu se servir des uns et des autres. C'est la deuxième fois, un jour je partais au Vietnam et c'était très dangereux cette époque et je repartais pour un deuxième voyage. Je n'avais pas le choix, je voyageais avec l'action missionnaire. J'étais aussi salarié en partie par l'action missionnaire. Et donc, quand on me demandait de partir en pays dans la guerre, je partais, c'est tout. Et mon épouse m'a dit, mais il y a un danger sur toi. Et je lui avais demandé de m'accompagner, si elle le souhaitait. Et puis elle m'a dit, oui, je vais t'accompagner parce qu'il y a vraiment un danger sur toi. Et quelques heures avant de partir, le président de l'Action missionnaire m'a téléphoné. Il m'a dit, tu ne pars pas parce que faire un voyage si long pour 4 jours de réunion, puisqu'ils ont diminué, tu ne pars pas. J'ai remercié Dieu et mon épouse aussi a remercié Dieu. Nous sommes heureux de savoir qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. Je préfère faire le voyage en économie plutôt qu'en soute pour le retour. Vous comprenez, je bénis Dieu de tout mon cœur pour sa protection, pour sa grâce. Ils se serrent les uns des autres. Merci au pasteur pour la parole de Dieu. Amen. Voilà,